Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Adrien.
Oui.
Bonjour. Actuellement on est dans une espèce de petit resto, c'est pas trop resto,
café où
on
veut.
Ouais, voilà, café crêperie. Au jardin des Tuileries parce que du coup on se voit parce qu'on a la réunion de l'année en fait avec la formation sur le dessin d'observation. Donc j'en profite du coup pour interviewer Adrien qui fait partie de la formation. Tu es actuellement au niveau 4. Niveau 4, donc il y a 7 niveaux, donc niveau 4. Donc on est vraiment en cours de formation, donc il va pouvoir un petit peu nous donner son avis sur la question. Ça te va?
Oui.
Et puis j'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu de ton métier, parce que tu as un métier qui est aussi dans le dessin, enfin dans l'art, dans le visuel en général, et donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir ton profil. Donc peut-être tu peux te présenter, puis expliquer ce que tu fais, etc. Ça peut être intéressant.
Très bien, ben, je suis Adrien, j'ai 27 ans. Et ça fait 5 ans que je travaille dans les effets spéciaux numériques et l'animation 3D en tant que CG généraliste spécialisé en compositing. Ça peut paraître un peu barbare, mais...
En gros,
CG généraliste, ça veut dire que je suis capable de gérer toutes les étapes de la création 3D, donc de la modélisation de modèles aux textures, éclairage et rendu. Et le compositing, donc c'est l'étape qui arrive après, où en gros on prend le plan qui a été filmé, on prend des images 2D qui ont pu être aussi faites, comme des main paintings, et on prend les images 3D qui ont été faites, et le but c'est de tout mettre ensemble pour que tout fonctionne en termes de lumière, d'ambiance, qu'on n'ait pas l'impression que la 3D sorte, voilà, il faut que ça fasse partie et que ce soit le plus réaliste possible.
Du coup, est-ce que tu travailles plutôt sur des films qui sont des films normaux ou du dessin animé? C'est plus de la science.
Globalement, j'ai plus fait de réaliste parce que c'est là-dedans que j'ai été formé. Après, là récemment, donc, je suis arrivé dans un studio d'animation 3D. Où là, c'est plus de l'animation. J'en avais fait un petit peu, j'avais fait un peu de stop motion aussi. Mais globalement, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai fait donc, du film avec des effets spéciaux très réalistes, j'ai fait du documentaire avec des effets spéciaux réalistes, mais avec un peu moins de budget, vu que c'est un documentaire. J'ai fait du clip.
Ouais, donc finalement, t'as fait quand même pas mal de choses différentes, en fait.
J'ai testé un peu de tout, je pense.
Il y a un truc que t'aimes bien en particulier ?
Le réaliste. C'est vrai que je suis plus à l'aise là-dedans.
Et alors, parce que c'est marrant parce qu'en dessin, tu vois, en 2D, le réalisme c'est toujours plus compliqué, tu vois. Enfin, même dans la formation, je pense que tu l'as vu.
Oui.
Quand on essaye d'aller plus vers du réalisme, c'est toujours plus complexe. Est-ce que c'est le cas en 3D ou pas du tout ?
En 3D, oui et non. En fait, ce qui est compliqué en animation, c'est que ça demande beaucoup de créativité et surtout ça demande une vision qui n'est pas la même en fonction des personnes en fait.
Ouais.
À chaque fois que j'ai travaillé sur des projets d'animation, très souvent je faisais quelque chose qui moi convenait à ce que la vision que j'avais d'une image qui est jolie, etc. Et très souvent c'était pas la même vision chez quelqu'un d'autre. Donc du coup ça demandait beaucoup plus d'aller-retour et de bien comprendre quelle était la direction artistique du projet en fait. Là où du réalisme, tu fais bon bah mon plan il est comme ça.
Réaliste ou pas réaliste quoi.
Voilà, ouais. C'est faut que ça soit.
Moi,
c'est ça. Faut que ça soit réel. Et après il y a des petits détails. Que tout le monde ne voit pas et que du coup on peut me faire remarquer. Mais globalement, c'est assez facile de.
Ouais, de savoir quel est le problème et comment régler le problème, etc. Alors que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu es dans de la direction artistique un peu trop définie, j'imagine que ça doit être compliqué de savoir si la décision que tu as prise va dans ce que le directeur artistique veut.
C'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, là, c'était vendredi où on a montré, ou jeudi, je sais plus, on a montré au patron de la boîte un plan sur lequel on travaillait. Mm-hmm. On avait fait un petit rajout de petites bulles, parce que c'était un plan sous l'eau.
Ouais.
Et parce qu'on trouvait ça joli, c'était ce qu'il y avait sur les concepts. Voilà. Et en fait, quand il a vu, il a fait non, non, on enlève les bulles.
Mais ça, c'est réaliste ? Ça, c'est dans un plan réaliste ?
Non, non, là, c'était dans un plan d'animation, justement.
D'accord, okay.
Et du coup, justement, on trouvait ça joli, on trouvait par rapport. C'était ce qui était marqué sur les concepts, mais visiblement, ça ne correspondait pas à ce que lui voulait pour l'instant, en tout cas.
Mais du coup, vous n'avez pas un storyboard, vous n'avez pas des lignes directrices avant, parce que le fait que vous ayez choisi de faire des bulles, c'était parce que c'était une volonté, vous vous êtes dit « Ah, ça serait sympa de le rajouter au plan ou... ?»
Alors ça, c'est le gros problème du milieu.
C'est
que tu as autant des projets très bien cadrés, où tu as des concepts, tu sais tout de suite où tu vas.
Tu dois faire, ouais, bien sûr.
Et il y a des projets, et j'en ai vu beaucoup passer, où les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Absolument pas. C'est « Faites-moi un truc joli ». Et du coup,
tu. Joli, ce que toi tu trouves joli n'est pas la même chose que moi.
Voilà. Donc, du coup, Bah, là, c'est typiquement le cas sur le projet sur lequel je travaille où ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et du coup, bah, on teste des choses, on fait des essais, ce qui fait perdre un peu de temps aussi.
Oui, oui, évidemment, j'imagine.
Mais voilà, ça arrive aussi.
D'accord. C'est intéressant du coup parce que ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment tu as fait pour arriver à ce travail-là. Parce que bah, c'est quand même assez spécifique comme métier. Malgré le fait que tu sois généraliste, c'est quand même assez spécifique. Et du coup, quelles études tu as fait pour arriver là? Si tu as fait des études. Comment tu as fait pour arriver dans la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu as fait quelque chose?
J'ai fait une école privée à Montpellier. Voilà, donc qui était. Maintenant, c'est en 5 ans obligatoire.
D'accord.
Mais à l'époque où je l'ai fait, c'était en 3 ans obligatoire et une année optionnelle.
Non, c'est comme moi à une école. Moi, c'était 4 ans. Et maintenant, je crois que c'est en 5 ou même peut-être plus, 6 ans. Tu vois. Ouais.
Bah, de toute façon, c'est des métiers qui évoluent tellement qu'il y a de plus en plus de savoir à accumuler. Et là, bah, je le vois avec les nouveaux élèves qui sortent, ils ont bien plus de compétences que moi.
C'est vrai, ouais.
Sur certains domaines.
Ouais. Je pense que ça doit être pareil pour moi. Il va falloir qu'on travaille deux fois plus.
C'est ça.
Ouais, du coup, donc c'était quoi à Montpellier et...
Mais après, ça faisait longtemps que je voulais faire ça.
D'accord.
En fait, à la base. Donc j'aime beaucoup le cinéma depuis très jeune, c'était un peu un refuge quand j'étais jeune.
D'accord.
Et dans mon village, parce que du coup j'ai grandi dans un petit village à la campagne, et il y a une femme qui a fait un stage en fait de cinéma, un espèce de stage, c'était toutes les deux semaines, un genre d'atelier.
Okay.
Et en fait j'avais accroché sur le montage en fait, j'avais
D'accord.
adoré le montage.
C'est chouette.
Et du coup je voulais absolument faire ça. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivé au lycée en première, j'ai découvert After Effects.
C'était pas du montage, c'était compositif.
Et en fait, le truc, c'est que c'était une époque aussi où je faisais pas mal de magie.
Mm-hmm.
Et du coup, j'ai adoré le fait de pouvoir déjà faire de la magie pour de vrai, entre guillemets. Et aussi, comme j'étais un peu rêveur, surtout à cette époque-là, bah, ça me permettait de donner aussi vie à des rêves, à des choses comme ça. Donc il y avait un côté un peu fantastique, vraiment. Extraordinaire, on va dire, dans le fait de faire des effets spéciaux. Donc c'est là que je me suis mis à After Effects. J'ai continué le montage, mais ça a pris un peu le dessus.
Le compositing a pris le dessus, d'accord.
Okay. Voilà. Mais au début, je n'étais pas sûr de vouloir faire ça, donc j'ai fait d'abord une fac à Montpellier, en cinéma.
Ouais. Ah. On était quand même dans le... Ouais. Parce que souvent, ça arrive que voilà, ça passe comme
ça. Dévie,
et Donc déjà, tu étais quand même dans le même sujet, ok.
Voilà, donc j'ai fait une fac en cinéma. Et en fait, en deuxième année, j'ai réussi à convaincre mes parents de passer le concours, mais pour voir mon niveau, en fait. C'était l'idée, c'était de dire, bon, bah, je veux savoir si j'ai le niveau, pas le niveau, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille, etc. Et en fait, j'ai été pris.
Voilà. Merde.
C'est ça.
Qu'est-ce que je fais maintenant?
Mes parents ont dû se sentir un peu bêtes.
Bah, ils étaient contents.
Non, ils étaient contents, du coup. Et voilà.
Et donc, t'as fait ces 3 ans?
Ouais.
Puis t'es sorti et t'as...
Et j'ai travaillé un mois plus tard, à peu près, quelque chose
D'accord.
comme ça.
Direct. Ça, c'était en quelle année, ça?
Ça doit être en 2014 que j'ai fini.
Je pose la question par rapport à l'année, parce que souvent, il y a des hauts et des bas en termes de prod, en termes de gens qui sont sur le marché. Par exemple, quand je suis sortie et que je suis arrivée sur le marché du travail en 2012... il y avait eu beaucoup de licenciements, et donc du coup quand t'es junior et que t'arrives dans l'industrie, bah évidemment que t'es pas très intéressant, alors qu'il y a des seniors qui sont présents, donc
L'avantage qu'on a, c'est que l'école que j'ai fait, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque où je suis sorti, c'était la seule école d'Europe quasiment où il y en avait peut-être 2 ou 3 qui proposaient vraiment une formation spécifique aux effets spéciaux numériques.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'écoles d'animation, mais d'effets spéciaux réalistes, on en avait quasiment pas.
Ouais.
Donc du coup, on s'exportait très facilement en fait. C'est-à-dire que là, toute ma promo, il y en a dans tout le monde entier. Il y en a en Nouvelle-Zélande, au Canada. Il y en a vraiment. Tout le monde est parti partout et personne n'a eu beaucoup de mal à trouver du travail globalement. Et puis comme c'est un métier en plus en expansion, vu qu'il y a de plus en plus de films à gros budget, de toutes les pubs qui maintenant sont beaucoup fait numériquement.
Ça coûte moins cher la plupart du temps, du coup, c'est pour ça que...
C'est pas une question d'argent, c'est plus une question de contrôle, en fait. Surtout en pub.
Ouais.
C'est qu'en pub, bah, ils sont très exigeants sur faut que le produit ressemble bien à quelque chose de beau.
Une vision parfaite de leur produit.
C'est ça.
Tu peux pas avoir une vision parfaite si tu fais de la vidéo, enfin, c'est compliqué. Il suffit d'ailleurs de regarder les vidéos, je pense, de quand ils font tu sais, les publicités pour la nourriture.
Oui.
Tous les stratagèmes qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir faire le plan parfait qui te donne envie avec, tu sais, les pubs avec notamment, je pense à McDo qui fait tomber le
steak
magnifique avec la salade trop belle, etc. Bon, je crois que pour le coup, c'est de la vraie nourriture. même si elle est un peu modifiée pour certains trucs, mais ils ont vraiment des, enfin ils ont des fils, ils ont des renseignements.
Ah oui, non, c'est très très organisé, très méticuleux, même c'est motorisé très souvent. Ils utilisent des systèmes de caméras justement motorisés pour que les plans soient déjà prévus, pour que ça filme parfaitement dans le bon axe, de manière jolie, avec une bonne lumière.
Tout ça pour manger du McDo.
Voilà.
Pourquoi on achète du McDo ? C'est pas triste. Ok. J'avais une autre question aussi. Oui, d'ailleurs, donc toi, tu travailles en France ? Et en France, du coup, est-ce qu'on est, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois en fait. Si par exemple moi je veux faire ça, mais que je veux rester en France, est-ce que j'ai quand même une possibilité de trouver facilement un emploi ?
Oui, ça reste très facile. Après, il y a des périodes creuses quand même de temps en temps. Ça arrive, hein. Mais ça dépend des films. Mais comme ça reste un métier en expansion, c'est honnêtement, c'est pas difficile. Et puis en plus, comme l'école maintenant, en tout cas en fonction de l'école qu'on fait, vu que les écoles augmentent en renommée, je sais que là, dans l'école que j'ai faite, tout le monde trouve du travail très très facilement. C'est vraiment pas difficile du tout. Après, l'avantage qu'on a aussi en France, c'est qu'on a le statut d'intermittent. Donc, comme on a des périodes de creux quand même, quoi qu'il arrive. Ça permet justement d'aider dans ces périodes-là.
Est-ce que tu peux peut-être parler pour les personnes qui ne voient pas exactement comment fonctionne le statut d'intermittent rapidement, hein, c'est pas le...
Grosso modo, il faut cotiser 507 heures de travail pour avoir accès au statut d'intermittent. C'est comme un chômage, sauf que le problème du chômage, c'est que si jamais vous avez une pause de 2-3 jours, vous n'allez pas être, vous n'allez pas recevoir d'argent en fait. C'est vraiment si vous êtes licencié et que c'est pour une durée assez longue, voilà. Alors que comme les métiers du spectacle, donc les techniciens, les artistes, tout ce qui est acteur, toutes ces personnes-là, ont des prods très très courtes en fait. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'engage pour un jour, deux jours en fait, avec plein de petits creux. Des fois, je travaille 10 jours dans le mois.
Parce qu'il n'y a pas particulièrement besoin. Ouais.
C'est ça. Du coup, le chômage en fait s'active dès que tu travailles pas.
D'accord.
Voilà, en fait, ça comble tous les trous au milieu. Mais il faut que tu aies cotisé 507 heures de travail pour avoir accès à ça.
D'accord. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un statut qui est vraiment relatif, enfin, qui est vraiment utilisé pour le coup en studio d'animation, de FX, j'imagine. En jeu vidéo, c'est clairement pas utilisé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce statut-là dans le jeu vidéo. Donc, bon.
Je pense que les prods sont plus longues en général. Après, en animation, il y a aussi quand même pas mal de CDI en fonction des projets. Ça dépend vraiment des projets.
De la série, j'imagine.
Et des tailles de boîte aussi.
Parce que par exemple, là où je suis actuellement, même si c'était pour une période assez longue où on m'a pris, ils ne pouvaient pas me se permettre de me prendre en CDI parce qu'il y a quand même des chances que,
aussi,
voilà, y a des chances que ça se coupe à certains moments, que, voilà, donc ils ne peuvent pas prendre le risque de...
Et du coup, je me posais la question, alors c'est vrai que ça va faire un peu le parallèle, enfin, en tout cas la continuité justement avec la formation, mais quelle part de 2D justement tu as ? Quelle part de dessin en fait tu as dans un métier comme ça ? Est-ce que tu dessines au jour le jour ou pas du tout ?
Alors moi... pas directement, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu une forme de dessin, on va dire. Parce que déjà,
il y a l'œil qui travaille, mais c'est
Il y a l'œil. Ouais. J'utilise une tablette graphique pour travailler.
D'accord.
Donc, je suis à l'aise avec les mouvements, en fait, on va dire, à ce niveau-là. Et puis après, il y a des fois où on doit peindre certaines petites choses pour faire des corrections. Donc, il y a une notion de peinture, on va dire, un petit peu.
Les corrections, ça peut être quel type de correction ? Par exemple, je sais pas, un micro ou
ça
un élément de...
Ouais.
Par exemple, dans les pubs de maquillage. Ouais. C'est effacer des boutons, nettoyer la peau, ce genre de choses.
Donc ça, c'est avec du tracking, j'imagine. Tu enlèves le bouton, du tracking. Une seule image, c'est ça.
Ça dépend. En fait, il y a plein de techniques différentes en fonction des cas, parce qu'il y a des cas qui sont trop compliqués pour faire ça. Donc c'est plein de, il y a plein de petites astuces.
D'accord.
Mais après, ça peut être aussi des choses auxquelles on pense pas du tout. Par exemple, dans les pubs de voitures, déjà ils veulent des beaux décors. Okay. Donc par exemple, une fois, on m'a demandé d'effacer des poteaux électriques. Des fois, ils tournent sur des décors. En fait, ils ont un bon fond, mais le décor au premier plan n'est pas très beau. Donc, on m'a demandé de nettoyer le goudron du parking sur lequel la voiture était garée. Et après, il y a aussi un autre truc auquel on ne pense pas du tout, c'est que les voitures sont généralement des prototypes pendant les tournages de pub. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement fini. Du coup, ils sont extrêmement sensibles à l'espacement des pare-chocs et les choses comme ça. C'est-à-dire que pour eux, s'il y a un espace un peu trop grand, c'est un défaut. Donc il faut rapprocher les pare-chocs, que toutes les parties soient bien propres comme ça devrait être sur le produit final.
D'accord.
Ou des fois, il y a des accessoires qui ne marchent pas. Donc, ils les font tenir pour l'instant avec un fil.
Quoi,
avec
ça. C'est un peu ça.
Et il faut effacer ce qui tient l'objet. Ça peut être plein de petites choses comme ça.
C'est un peu comme nous avec nos trailers de jeux vidéo, en fait. Quand on fait un premier trailer de jeux vidéo, tu montres un prototype, enfin, tu montres quelque chose qui est censé être le produit final, mais clairement, ce n'est pas le produit final. Tu n'as pas eu le temps encore de développer tout le jeu. Mais il faut bien le promouvoir. Donc, tu fais semblant que c'est le jeu et c'est un peu, c'est pareil, un peu c'est ça, assez rigolo. Moi, je pensais surtout à chaque fois, je pense à ça, c'est quand tu vois une voiture qui est filmée, tu sais, dans un spot publicitaire, tu vois pas la personne qui le filme quand elle est à l'intérieur de la voiture. Tu sais, t'as un reflet, comme si la voiture se conduisait toute seule, tu sais. Tu vois jamais en fait le reflet d'une personne qui est en train de conduire. Je me dis toujours, ah, mais ils doivent sûrement l'enlever, tu sais, en post-prod, quoi.
C'est possible, j'ai jamais eu le cas. T'as jamais eu le cas, mais.
J'imagine toujours le gars qui doit être habillé tout en noir avec une cagoule noire pour essayer de cacher le fait qu'il est dans la voiture. Pour pas que les gens se concentrent sur le chauffeur, mais se concentrent sur la voiture en elle-même. Ouais. Je trouve ça assez rigolo.
Mais du coup, par rapport au dessin, après, ça peut être utile quand on a affaire du main painting. Parce que forcément, là, ça m'est arrivé. C'est pas ce que je fais le plus souvent, mais ça m'est déjà arrivé.
Peut-être que tu peux essayer de définir d'ailleurs pour les personnes qui voient pas ce que c'est.
En gros, c'est prendre plein d'images de photos pour recréer un fond qui n'existe pas ou qu'on n'a pas les moyens de recréer. Ça peut être refaire une ville, mais une ville qui correspond aux envies du client, ou faire un décor fantastique avec des îles volantes, des choses comme ça. Et à la base, c'était de la peinture. C'est-à-dire que sur Star Wars, les premiers made paintings, c'était des peintres qui faisaient des peintures à l'ancienne, photoréalistes.
J'en parle dans la vidéo sur comment créer un décor réaliste, il me semble. Je vous mettrai pareil le lien comme d'habitude dans la description ou ici, au-dessus de ta tête, désolé. Parce que justement, en fait, j'étais allée dans un musée où ils parlaient du cinéma, etc. Et donc on voyait les vrais matte paintings de l'époque qui sont magnifiques, qui sont vraiment très réalistes pour le coup. Et en fait, c'était justement utilisé parce qu'ils ne pouvaient pas se faire une maquette, ils ne pouvaient pas faire de la 3D, c'était pas très intéressant pour eux à l'époque. Donc ils peignaient, en fait. Voilà.
C'est ça.
Donc ça peut arriver du coup de faire de dessiner arriver, dans ce genre de cas.
Et après j'aimerais à terme aussi pouvoir faire du concept.
Ouais. Donc du concept pré-prod vraiment avant de passer à la 3D.
C'est ça.
Pour des projets perso pour le coup parce que dans le travail ça m'intéresse pas forcément, j'ai envie de créer pour moi un petit peu aussi.
Donc t'as des petits projets d'ailleurs par rapport à ça, parce que alors faut savoir qu'on s'est rencontrés ce matin là tout à l'heure au jardin de Tuileries, mais du coup tu filmais pour toi pour un projet personnel.
Oui.
Tu peux peut-être en parler ou pas.
Oui, je peux en parler un petit peu. En gros, l'idée c'était de faire un court-métrage qui se passe dans les rues de Paris. Où en fait il y a plein de statues au milieu des gens en fait, mais les gens ne les voient pas.
D'accord.
Et éventuellement les bousculent, les font tomber, les cassent, ce genre de choses.
Ça va être compliqué du coup ça à faire. Tu vas faire les statues en 3D qui peuvent être vraiment cassées, parce que évidemment tu ne vas pas casser, j'espère, les sculptures dans un Tuileries. Mais du coup c'est vraiment quelque chose que tu pourrais faire, de modéliser vraiment la structure.
En gros c'est récupérer des modèles qui ont été faits par d'autres personnes et appliquer dessus une texture de pierre, trouver un look, un visuel de pierre qui soit assez sympa. Et après, soit c'est juste les poser au milieu des personnes et les rendre réalistes, quoi. Et si jamais elles doivent être cassées, c'est faire une simulation où la statue tombe et elle se casse.
Du coup, la question que je pose toujours par rapport à ça, c'est toutes ces animations, tu sais, justement de vêtements, de cheveux, de tout ce qui est. C'est des notions de scientifiques finalement. Ouais. C'est quoi, c'est des choses, j'imagine, que tu ne programmes pas. Il y a des...
Non, en gros, c'est programmé à la base, mais c'est ce qu'on appelle du coup des simulations.
D'accord.
C'est tout ce qui fait appel à de la physique réaliste. En gros, c'est des personnes qui s'occupent de coder ça pour que ça réagisse de manière cohérente et physique. Et en gros, nous, après, on a des paramètres à régler pour pouvoir...
Donc, ça se rapproche de...
C'est ça. Que... Par exemple, sur les vêtements, c'est est-ce que les vêtements sont lourds? Est-ce qu'ils vont bouger beaucoup? Est-ce qu'ils vont avoir des petits plis? Est-ce qu'ils vont rester collants? Enfin, il y a plein de petits paramètres. Est-ce qu'ils sont élastiques? Est-ce qu'ils peuvent se déchirer aussi? C'est plein de petits paramètres comme ça qui permettent de contrôler un peu la simulation. Donc, il y a une part de contrôle, mais il y a aussi beaucoup d'aléatoires, du coup.
D'accord. Donc tu testes, tu revérifies. Peut-être c'est qu'il y a ça, des choses qui ne sont pas particulièrement réalistes, mais visuellement, ça apparaît réaliste.
C'est ça. Par exemple, le meilleur exemple, c'est sur le film Gravity, où il y a un moment où il y a des flammes dans la capsule spatiale. Et en fait, ils ont expliqué qu'ils ont eu des refs de la NASA de feu.
Ah oui, ah oui.
Dans,
pour savoir comment ça se comportait, en fait.
Et en fait, ils ont expliqué qu'ils ont fait un truc à mi-chemin entre ça et ce qui se passe sur Terre.
Pour que le spectateur ne soit pas particulièrement choqué.
C'est ça, parce qu'en fait, c'était tellement bizarre à voir, comme on n'a pas l'habitude, en fait, c'est le genre d'image qu'on ne voit pas, que du coup, ils ont expliqué, voilà, ça aurait paru trop étrange pour le spectateur, donc il fallait trouver un compromis pour que ça, on sente qu'on est dans l'espace, que ce n'est pas la même réaction que sur Terre, mais qu'en même temps...
Que le spectateur ne soit pas complètement perdu à se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
C'est ça.
Bien sûr, ouais, c'est ça.
Donc c'est souvent comme ça, ou si tu veux donner un effet plus spectaculaire, bah, exagérer quelque chose, même si ce n'est pas réaliste.
Même dans du réalisme, du coup, vous allez un peu dans la caricature d'une certaine manière pour essayer de mieux faire passer un message.
Oui, et puis aussi parce que des fois, ça a l'air beau quand tu la regardes de l'extérieur, la simulation, et dès que tu la regardes dans l'axe de caméra avec laquelle c'est filmé, ça ressemble à rien.
D'accord. Donc t'es obligé un petit peu d'augmenter les potards pour...
L'idée, c'est que ça fonctionne dans l'axe qui est filmé, quoi.
Pareil, je vais essayer de vous mettre une vidéo maintenant qui correspond à le jeu vidéo Guilty Gear. Je sais pas si ça te parle. Je suppose que tu connais un petit peu les jeux, tu joues un petit peu.
Oui, je joue pas mal. Mais...
Guilty Gear, du coup, c'est un jeu de combat en 3D. Et donc, c'est un rendu cel-shadé 2D. Donc, ça ressemble vraiment à de l'animation 2D pour le coup. Et en fait, quand tu vois la caméra à l'extérieur des cinématiques, parce que tu as la caméra de cinématique qui bouge comme il faut, bah, tu vois toutes les déformations de visage, de corps, etc. Oui. Et c'est n'importe quoi, en fait. Quand tu vois ça d'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Mais de l'intérieur, ça fonctionne très bien. Même toi qui es dans du réalisme, finalement, tu vas aller un petit peu plus loin pour essayer d'être peut-être plus compréhensible, plus spectaculaire. Un petit peu, c'est encore une forme de manipulation finalement.
Et aussi de narration.
Oui.
Parce que, mine de rien, c'est, si on faisait quelque chose toujours de réaliste au cinéma, ça serait un peu chiant. Donc il faut toujours exagérer un peu les choses.
Ouais,
un petit peu plus loin. Du coup, j'aimerais aussi faire le lien avec ça, parce que tout à l'heure, tu parlais par exemple des plis, de l'épaisseur, de la texture, etc. C'est quelque chose aussi que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est quand vous dessinez quelque chose, c'est important de comprendre ce que vous êtes en train de dessiner. Donc justement, quand vous faites des plis, par exemple, c'est est-ce que le pli de ce vêtement, c'est du cuir, est-ce que c'est du tissu, du coton, et ça va vraiment réagir d'une manière différente. Est-ce que du coup, ça, c'est ces connaissances que tu peux avoir avec la 3D et toutes ces... Ces caractéristiques sont un peu scientifiques qui correspondent à la réalité pour le coup. Est-ce que ça t'aide en dessin ou inversement ?
Je pense que ça aide. Moi, je n'ai pas forcément ces connaissances-là scientifiques. Ouais. C'est plus en termes d'observation où je les ai, on va dire. Mais c'est clair que oui, en dessin, ça aide beaucoup parce que tu te rends compte de comment les volumes réagissent, de qu'est-ce qui fait qu'un volume ressort, surtout quand on doit les mettre en lumière. Généralement, on doit faire en sorte que ça se voit ou non, mais on doit réussir à les mettre en lumière correctement. Donc, il faut comprendre comment la lumière fonctionne, comment elle va taper sur l'objet. Et puis aussi, il y a toute l'étape où on a les textures de l'objet. Et il faut faire en sorte que les textures réagissent de façon réaliste. C'est-à-dire qu'on sépare tout par plein de couches, on va dire. C'est d'abord la couleur. Puis tu vas avoir par exemple la réfraction si c'est une vitre, tu vas avoir les réflexions si c'est un objet qui réfléchit, tu vas avoir les spéculaires qui sont les hautes lumières très blanches, et donc il faut paramétrer toutes ces choses-là pour que le matériau soit le plus cohérent et réaliste possible. Et ça, c'est beaucoup d'observations et ça aide. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai attaqué du coup la formation, parce que je ressentais où étaient les lumières, pourquoi elles étaient à cet endroit-là, pourquoi elles réagissaient comme ça, est-ce qu'il fallait la mettre celle-là un peu plus forte, un peu plus en
hiérarchiser en fait, hiérarchiser tes valeurs et savoir exactement si ça doit être très lumineux, est-ce que tu dois vraiment le mettre en avant ou pas particulièrement en fait ça.
Oui, du coup, en valeur, ça m'a beaucoup aidé parce que on a l'habitude de devoir faire correspondre les valeurs du plan qui a été tourné aux valeurs de la partie 3D. C'est beaucoup d'œil en fait, beaucoup de d'œil et de nuances.
D'observation, de compréhension.
C'est ça, et de savoir, est-ce que, puis des choses toutes bêtes aussi, mais est-ce que tes ombres sont vraiment pure noire, ou est-ce qu'elles ont un peu de couleur, est-ce qu'elles sont un peu teintées, pareil dans les hautes lumières, est-ce que tu vas avoir, par exemple, aussi un truc que je pense que beaucoup de personnes qui démarrent le dessin ont du mal à intégrer, c'est toutes les lumières indirectes.
Ouais. Le reflet, alors du coup peut-être expliquer ce que c'est les lumières indirectes, je te laisse expliquer, tiens pour une fois c'est pas moi qui donne le cours, vas-y.
En gros c'est le fait que si par exemple vous avez une lumière qui tape sur le sol, eh bien elle va réfléchir, si le sol est assez clair, ça va réfléchir de la lumière vers le qui vient du bas.
On va attendre encore plus tard.
du coup,
en fait.
Donc voilà, c'est la lumière qui tape sur le sol et qui renvoie de la lumière sur les objets, mais par le bas, qui du coup est moins forte que la lumière originale, mais une lumière qui a quand même de l'impact et qui surtout peut être colorée en fonction de la couleur de l'objet qui réfléchit, de la couleur de la lumière.
Et
ouais, il y a une légère couleur orange.
En fonction du type de couleur que vous avez pas loin, ça va réfléchir sur votre visage ou ailleurs. Et c'est ce genre de choses qu'on n'a pas vraiment conscience quand on débute le dessin. Au début, on prend notre crayon et puis on dit bon, bah, c'est de la couleur peau, donc je fais de la couleur peau. Oui, mais non, en fait, il y a énormément de petites nuances à l'intérieur.
C'est ça. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous dans mon travail, en tout cas. Donc, du coup, c'était un truc que j'ai intégré tout de suite. C'est pas forcément évident à représenter.
Oui, voilà. Mais déjà, le fait d'en avoir conscience, je pense, te permettait déjà de te dire « Ok, je sais que ça existe. » C'est plus facile de dessiner quelque chose quand vous savez que ça existe. Et ensuite, bon, bah, voilà, le refaire, retrouver la bonne couleur, la bonne teinte, la bonne place, etc., c'est autre chose. Mais déjà, d'en avoir conscience.
C'est ça, et ça aide aussi à avoir du recul sur son dessin. C'est-à-dire que je sais que les premiers dessins que je faisais, bah, souvent, tu le dessines un peu la tête dans le guidon. Et puis, d'un seul coup, tu le sors, tu le regardes. Et je pense que quand tu démarres, t'as du mal forcément à voir les défauts et avoir du recul, voilà. Et là, du coup, bah, par exemple, la lumière indirecte, c'est le genre de truc que je faisais. Ok, j'en ai pas mis. C'est clair. Bon, bah, tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois.
Du coup, bah, si on peut faire la liaison avec la formation, parce que c'est vrai que là, on en parlait vraiment de ton métier, ça me semble important aussi parce que c'est les cas comme les tiens sont assez rares, les personnes qui font justement du compositing, du film, réaliste, etc. C'est quand même assez rare, donc je voulais qu'on en discute. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une deuxième vidéo, comme ça au moins vous n'allez pas avoir une trop longue vidéo, donc je vous retrouve dans la deuxième vidéo. Et si vous m'écoutez en podcast, vous avez juste à attendre et vous allez avoir la suite tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, donc on est aujourd'hui avec Adrien. Vous avez une partie 1, si vous êtes là et que vous ne savez pas de quoi ça parle, de qui on est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Regardez la partie 1, là on est sur la partie 2 où tu vas nous parler du coup de la formation, de comment est-ce que tu l'as vécu, est-ce que ça t'a apporté des choses dans ton métier, bref, toutes ces choses-là. Donc déjà je voulais savoir vu que tu as déjà fait une formation dans les affixes etc, est-ce que tu avais vraiment besoin, est-ce que tu ressentais le besoin plutôt déjà de rejoindre une formation de dessin, quelles étaient tes motivations en fait?
À l'époque ou maintenant?
À l'époque,
alors déjà c'était pas obligatoire mais c'était fortement conseillé par l'école.
Ah ouais,
quand on entrait, ouais. Et notamment la première année préparatoire que du coup j'ai passée, je n'ai pas fait, il y avait une formation de dessin justement qui était prévue. Mais maintenant, les élèves qui rentrent ont tous un niveau déjà de dessin un peu plus conséquent que ce qu'on avait, en tout cas quand j'y étais. Et après, moi personnellement, ouais, c'était quelque chose dont je ressentais vraiment le besoin parce que j'ai toujours eu du mal à représenter les images que j'ai en tête. Et ouais, de zéro. Et même, en tout cas, quand j'étais à l'école, même si j'avais un appareil photo, j'avais des idées d'images, mais même avec un appareil photo dans les mains, j'arrivais pas à savoir comment la prendre en photo. Avec une caméra, c'était pareil. J'étais vraiment bloqué à ce niveau-là. Et du coup, je me disais que le dessin pourrait aider.
À poser tes idées,
C'est ça, vraiment marquer un cadre, savoir exactement ce que je veux, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que c'est cet objet-là qui m'intéresse, cette lumière-là, voilà, avoir une notion un peu de qu'est-ce qu'il va y avoir, grosso modo, un peu dans le cadre.
Une prise de notes illustrée, quoi.
C'est ça. Voilà.
Je n'arrivais pas du coup à faire ça.
Et le problème surtout, c'est qu'on m'a très clairement fait comprendre que j'étais un technicien quand j'étais à mon école et que je ne pourrais jamais être créatif et qu'en dessin, j'étais une bille et que ça ne marcherait jamais.
Alors déjà, si on vous dit ça, n'écoutez pas, hein, parce que c'est comme si on vous disait le dessin c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, et c'est pas vrai en fait, ça s'apprend et tout le monde peut apprendre le dessin, mais le problème c'est que quand on reçoit ce genre de commentaires, je pense que ça bloque.
Bah surtout que j'étais déjà bien bloqué artistiquement à l'époque, donc ça a pas, pour te dire à quel point ça en est arrivé, il y a un cours où j'ai fait une crise de panique et de tétanie, je pouvais juste littéralement plus bouger.
Ça arrive, j'ai déjà vu ça aussi, voilà. Avec des amis à moi. Donc, et c'est triste du coup parce que le dessin devrait être un plaisir et devrait pas être justement une source de stress. Et ça l'est souvent, on va pas se mentir, hein, quand on dessine et qu'on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, ou il y a plein de raisons qui font qu'on peut être dégoûté par notre dessin. Et évidemment, votre cerveau, votre corps s'en rend compte de ça et il va pas vouloir refaire la même expérience si c'était une expérience négative. Donc il faut essayer au maximum de rendre la pratique de dessin une expérience positive, et juste le fait d'avoir ce genre de commentaires, essayez, alors je sais que c'est pas facile, mais essayez de passer outre, parce que vous pouvez pas écouter ce genre de commentaires là. C'est parce que eux, je pense qu'ils sont dans une optique de ok, tu ne seras jamais dessinateur professionnel, tu ne gagneras jamais d'argent, c'est peut-être ça, grâce à ton dessin, mais c'était pas ton but, tu vois, t'as le droit aussi de...
Non, et puis aussi c'est le soutien aussi joue beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est la différence que j'ai vue avec la formation, c'est que une des choses qui m'a le plus aidé, c'est le fait d'avoir le Discord avec les gens.
Le Discord, c'est le chat privé, du coup, vous pouvez le rejoindre direct dès que vous avez la formation, vous avez accès à vie, en fait. Donc, c'est tous les élèves sont dans ce chat privé.
Et du coup, bah, dès qu'on a un coup de mou ou qu'on n'est pas content d'un dessin, le fait de le montrer, d'avoir des retours et que les gens soient réactifs et nous donnent des conseils, même quand on a un gros coup de mou, bah, c'est vrai que ça fait du bien, alors qu'à l'époque, à un moment, je me souviens justement de l'exercice où j'étais vraiment paralysé comme ça. On nous avait demandé de faire un dessin dans le style de Tim Burton. Okay. Sauf que quand t'as quasiment jamais dessiné de ta vie et qu'on te met ça comme exercice, tu te dis mais en fait je dois faire quoi ?
Ouais, comment je fais ?
C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire un trait ? Je dois faire Explique-moi un peu le principe en fait. Et le problème, c'est comme il y avait pas mal d'élèves qui étaient assez bons déjà. Le prof n'allait pas vers les élèves qui avaient des difficultés pour les aider à prendre le pas, quoi.
Surtout quand j'imagine que tu vois que les autres y arrivent. Et c'est un peu comme la course. Souvent, je fais une métaphore avec la course. Tu vois les gens qui partent tous devant, et t'es là, je fais comment vous faites pour courir?
Ben, c'est exactement ça. Là, j'ai vu toutes les têtes baisser, tout le monde dessiner, et moi, j'étais là, genre, je dois faire quoi?
Voilà.
C'est ça. Et alors, c'est un truc aussi qui me tient particulièrement à cœur aussi, c'est de croire que le dessin, il suffit de prendre une feuille et de dessiner. Alors qu'en fait, alors je sais pas d'où ça vient ce truc-là, je pense que c'est une forme de...
C'est un mythe, c'est partie de ces...
Ouais,
c'est parce qu'en
fait, ouais, c'est aussi le fait de dire, bah voilà, moi je suis un artiste, je sais dessiner, je ne vais pas t'expliquer, toi qui ne sais pas dessiner, comment on fait, tu vois. Je pense qu'il y a un truc un peu aussi comme ça, qui est un peu une espèce d'élitisme du dessin, qui fait que on n'explique pas, en fait, c'est que pour moi, en fait, bah, le dessin peut être vraiment expliqué. Pour le coup, je veux t'expliquer comment tu es censé faire, tu vois. Si j'avais été là, c'est facile de le dire, mais j'ai des trucs à te dire, tu vois, sur le comment recopier le style de quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses à dire, tu vois. Et non, malheureusement, la plupart du temps, on considère que c'est quelque chose qui est acquis et tu l'as ou tu l'as pas. Alors que c'est totalement faux. Mais bon.
C'est ça.
Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de prendre la formation ?
Non, donc là, c'était pendant mes études.
Ouais.
Et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, jamais je ferai du dessin, c'est fini. J'avais un peu abandonné l'idée, surtout que j'avais, pendant mon film de fin d'études, il y avait une personne de mon groupe qui elle, était très douée. Donc c'était un peu bon, allez, fais.
C'est toi, tu es l'élu.
C'est ça.
Tu es l'élu.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que j'aurais jamais repris le dessin si je n'avais pas connu ta chaîne.
C'est vrai ?
Parce que en fait, j'ai connu ta chaîne en découvrant les Radio Nesblog qui ont fait passer la développeuse du dimanche. Et du coup, j'ai vu l'interview que tu avais fait d'elle. Et du coup, je suis arrivé comme ça sur ta chaîne, totalement par hasard.
Merci la développeuse du dimanche. Allez voir sa chaîne YouTube d'ailleurs. Elle fait une chaîne YouTube où elle explique comment elle développe son propre jeu. Allez voir.
Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne. Et en fait, au début, j'écoutais juste comme ça par pure curiosité. Et petit à petit, je me suis dit, mais...
Moi aussi, je peux.
mais j'avais un peu peur, quoi. C'est-à-dire que ça m'a pris quasiment un an pour me dire, allez.
On y va.
Et puis aussi, je pense que mon mood a joué, c'est-à-dire que j'ai commencé le challenge 30 jours, quand j'ai quitté Paris.
D'accord. Et c'est là que tu t'es dit, là, je suis... Il y a ça aussi.
Je suis prêt, en fait.
Voilà, je suis assez serein pour me dire, j'accepte de d'essayer, de... Bah, si j'y arrive pas, mais...
C'est ça, de supporter l'échec.
C'est ça.
Parce que c'est vrai que j'étais pas forcément très bien quand j'étais sur Paris. J'avais déjà beaucoup de choses à gérer. Et je me disais, si j'ai cet échec-là en plus sur le dos, ça va m'achever, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a... En fait, j'ai fait, je pars de Paris, ça me libère d'un coup, et je me suis dit, allez, tant qu'à faire... J'en profite.
Un renouveau et j'essaye de nouvelles choses aussi.
C'est ça. Enfin, ouais. J'ai envie de faire d'autres choses.
Pour le coup, je pense que le challenge des 30 jours était parfait pour toi, parce que le challenge des 30 jours, en fait, alors il est là pour évidemment pour faire progresser en dessin, mais en fait, bon, j'essaie déjà de vous ouvrir chaque jour. En fait, j'essaie de vous ouvrir sur une observation en particulier. Mais surtout, j'essaie aussi de vous pousser à accepter l'échec, justement. À accepter que vos dessins, ils sont peut-être pas géniaux, mais c'est pas grave, en fait. Parce que chaque jour, vous allez être meilleur par rapport au dessin précédent, en fait. Et je pense que le challenge des 30 jours, il est plus là, justement, pour vous pousser à accepter, en fait. Et justement, être dans ce cercle bienveillant de, juste j'apprécie de dessiner sans avoir peur constamment du résultat, quoi.
Oui, et puis aussi, moi, je sais que certains exercices, par exemple, vers la fin, je me disais, ok, celui-là, il sera pas beau. De base, en fait, avant même de démarrer le dessin, je me dis, il sera pas beau. Mon but avec celui-là, c'est d'essayer plein de trucs. Notamment sur la couleur, je sais qu'à un moment, j'ai fait un dessin, il était vraiment pas beau, hein, c'était chaotique. mais du coup, ça m'a permis. Oh oui. Mais du coup, c'était, je voulais voir comment réagissait la couleur, comme j'étais au crayon de couleur. Je voulais voir comment ça allait marcher, comment les couleurs allaient se mélanger ou non, du coup, avec le crayon de couleur. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé sur mon dessin de fin à me dire, ok, je vais appréhender la couleur de cette façon-là, du coup, parce que j'ai testé dans un autre challenge comment ça réagit, quoi.
Et est-ce que celui-là, là, sur la couleur, tu te serais senti capable de le faire dès le premier jour, par exemple? Non. Donc il y a quand même une évolution juste en termes de mental, de te dire bon ok, j'accepte, c'est pas grave, c'est un exercice comme quand tu fais du piano, tu fais des gammes, donc tu fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas super rigolo, c'est pas très intelligent et c'est pas très agréable à l'oreille, mais il faut ça en fait pour arriver au final. Et puis petit à petit, j'imagine que tu prends du plaisir aussi à aller vers ce, comment dire, t'es pas que dans le plaisir du résultat final, tu vois.
C'est ça.
Juste
c'est
le fait de dessiner peut-être.
Oui, et puis voilà, se dire qu'on peut dessiner pour apprendre et pas pour obtenir une belle image, en fait. Que le fait d'apprendre ne passe pas juste par tout de suite faire quelque chose de beau, mais par se dire je vais tester un truc qui sera pas beau, justement pour que la prochaine fois...
Ça te permettra de faire ça. Je comprends. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous faire passer comme enseignement, comme conseil, ou je ne sais quoi. C'est vraiment je pense encore une fois que c'est à cause de l'éducation classique, l'éducation, le système éducatif, en fait, qui nous pousse à avoir peur de l'échec et à nous dire, bah non, t'as fait faux, t'as mal répondu, t'as machin. Et à force, en fait, on a du mal à accepter que, on est obligé d'échouer pour y arriver, en fait. T'es obligé de tester des choses pour te dire, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et sur le prochain dessin, tu pourras ensuite affiner, aller un peu plus dans le détail, etc. Ça, c'est super important, je pense. Ok, et du coup, par rapport à la formation, du coup, donc là, t'es au niveau, donc on a dit niveau 4 sur 7, donc il y a 7 niveaux dans la formation. Chacun des niveaux essaye de développer une vision, donc un point de concentration quand vous observez. Donc là, tu es au niveau 4 qui correspond à quel niveau? Quelle vision, plutôt?
C'est tout ce qui est perspective un peu plus avancée, avec plus juste des cubes, mais aussi les sphères, les patates, les cylindres, et le fait de les mettre sur des modèles. Hein. Enfin.
Et ça va, ouais, ça va. Parce que pour le coup, la plupart du temps, les gens se cassent un peu les dents sur le niveau 4. Donc, toi, ça va?
J'ai appris à prendre mon temps, on va dire. C'est-à-dire que les premiers niveaux, je les ai fait très vite. Et arrivé sur ce niveau 4, il y a des choses qui ont fait que j'ai fait une pause, etc. Et là, en le reprenant, je me suis dit, je vais prendre mon temps. Je vais, au lieu de me dire, fonce et du coup, tu vas un peu galérer et tu vas pas forcément apprécier, je me suis dit, voilà, fais 10 minutes par jour de ça. Et petit à petit, tu vas avancer, le niveau 4 va passer comme ça.
C'est exactement comme ça qu'il faut le voir, parce que il faut pas se... Non, on entend partout, hein. On entend ça dans le sport, on entend ça partout. C'est vraiment essayer d'être plutôt régulier, plus que essayer de foncer, produire beaucoup d'un coup, être dégoûté parce que vos attentes sont beaucoup trop hautes par rapport aux résultats. Et au final, vous arrêtez complètement. Et dans la formation, on a ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent pendant un certain temps, qui reviennent, etc. C'est totalement normal. Il faut aussi accepter qu'on est dans une vie qui est compliquée. On a tous un travail, des études, peut-être des enfants. Enfin, faut pas non plus, tu vois, se frapper à chaque fois parce qu'on n'a pas dessiné assez, etc. Et je sais que beaucoup de gens sont comme ça, et moi-même, hein, moi la première, si j'ai pas assez travaillé dans la journée, je m'en veux. Alors qu'il faut aussi accepter que c'est un processus qui est quand même long, et si vous voulez progresser comme il faut régulièrement, il faut mieux apprécier ce que vous faites, en fait, et vraiment prendre du plaisir dans le fait de dessiner, tu vois. Et même si vous dessinez des cubes et des patates et des super, il faut quand même essayer d'avoir ce plaisir là. C'est aussi pour ça qu'il y a le chat qui est là, le chat privé, il est là pour pouvoir vous motiver, etc. C'est pareil, ça fait partie de l'enseignement, de dire soyez bienveillants les uns envers les autres, essayez de ne pas vous critiquer outre mesure, même si c'est important aussi de savoir qu'est-ce que vous avez mal fait, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser petit à petit, en fait.
Et puis ça apprend aussi à prendre la critique, parce que c'est vrai qu'au début, on a tous tendance à pas montrer les premiers dessins, parce que voilà, on a peur justement de la critique, et quand on se rend compte que non seulement c'est productif, mais qu'en plus c'est bienveillant,
Encore une fois, on est encore dans ce cercle positif de « Ok, bah, j'ai eu une expérience positive, mon corps et mon esprit acceptent que ça a été positif et donc on y retourne et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à progresser. »
Ouais.
Donc ça fait combien de temps du coup que tu as rejoint la formation à peu près ?
Depuis, alors le challenge change 30 jours, je l'ai commencé au mois de janvier et j'ai rejoint la formation mi-février, début mars.
D'accord, oui, donc c'était quand même cette année. Il me semblait que c'était l'année dernière, je sais pas pourquoi, mais ok, c'était quand même cette année. Du coup, est-ce que tu recommanderais la formation ? Est-ce que, et si oui, à qui ? Non, vas-y, t'es nul. Je retourne à ma 3D et mes FX.
Je pense à ceux qui n'ont pas peur de dessiner déjà tout seul chez eux, parce que c'est vrai que certaines personnes ont besoin de contact, d'être avec quelqu'un derrière. C'est vrai que ça, c'est pas forcément évident.
De se sentir seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le chat, parce que c'est aussi responsable. Sinon, si vous êtes tout seul devant vos vidéos, c'est vrai que c'est moins rigolo.
C'est le problème de beaucoup de formations, souvent. Mais sinon, bien sûr, c'est. Je ne sais pas dans quelle optique je la recommanderais exactement, mais oui, bien sûr.
Il y a des profils assez différents du coup dans la formation, c'est ça qui est assez rigolo. On a des personnes autant qui veulent devenir professionnelles, comme des personnes qui sont juste là pour le plaisir. Il y a des personnes qui ont des projets qui veulent devenir tatoueur, qui veulent faire des BD, qui veulent faire des livres, des livres interactifs, mais des livres pour enfants. Il y a vraiment tous les profils, donc pour le coup, c'est
un des projets.
C'est... De quoi ?
C'est un de mes projets.
De livres pour enfants ?
Ouais, je voulais faire des contes pour enfants.
Pas. D'accord.
Parmi mes centaines de projets qui gravitent.
Pour arriver à se focus sur certains trucs.
C'est ça.
Et est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu avais particulièrement aimé dans la formation, un exercice, un cours
J'aime bien le fait d'avoir déjà des exercices imposés, des exercices bonus. C'est vrai que ça, c'est chouette parce que...
Vous avez des exercices en fait qui sont soit pour... disons qu'il y a des exercices un peu obligatoires. Évidemment, je ne vais pas vous courir après si vous ne les avez pas fait, mais vous avez des exercices obligatoires et vous avez des exercices facultatifs qui sont pour les personnes soit avancées, soit parce que vous voulez être sûr de bien comprendre et ça va un petit peu plus loin dans le niveau, quoi.
Mais du coup, là, c'est bien parce que c'est vrai que si on est sur une partie qu'on a détestée ou on n'accroche pas du tout, on peut se dire bon...
Allez, je vais faire les facultatives à la place ou je ne les fais pas du tout.
Et si jamais on est sur un chapitre qu'on aime bien, c'est vrai que je sais que moi, il y a eu, je crois que c'est les deux premiers chapitres où j'ai fait tous les exercices facultatifs, j'étais à fond, j'étais trop content. En plus, j'aime bien, tu vois, j'ai le syndrome des achievements.
Personnel, ouais.
Dans les jeux vidéo, t'as des achievements, il faut tous les faire.
Ah oui, c'est bien ça. Mais pourtant, ça marche pas avec les bouboules et les aplombs.
Non, les bouboules et les aplombs, c'est.
Alors, faudrait peut-être que je fasse un système où si tu as fait tous les exercices normaux et facultatifs, tu gagnes un achievement. Faut que je fasse ça.
Ah, peut-être.
Faut que je fasse ça. Ok, je le retiens. Peut-être que là, au moins, tu feras tes exercices facultatifs, c'est ça. Et les obligatoires aussi. Ça marche, je le retiens. Ok, écoute, merci beaucoup, Adrien. Je pense qu'on est bon.
Ouais.
Du coup, on peut te trouver quelque part, peut-être retrouver tes dessins ou...
Quelques dessins sur mon Instagram, mais je fais surtout des photos dessus.
Je mets le lien.
Et après, sinon, j'ai tout ce qui est mes courts-métrages, bande démo, travail sur une chaîne Vimeo.
Ok, pareil, je vous mettrai le lien. Et du coup, peut-être qu'on pourra voir ton court-métrage que tu as commencé à tourner ici. Peut-être, bon, pas tout de suite à mon avis, mais peut-être dans quelques semaines, mois.
Mais ouais.
Merci beaucoup, Adrien.
C'était un plaisir. Merci à toi.
Et merci à vous de nous avoir regardés. Du coup, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao.